Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour la seconde émission du mois de mai, puisque le mois de mai touche bientôt à sa fin. Et donc, pour animer l'émission ce soir, autour des micros, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Alors, pour là, on est dans le studio. Pour ne rien vous cacher, ça ne vous surprendra pas, il fait très très chaud dans le studio. Surtout que le studio de la radio, si vous le connaissez, il est juste sous les toits. Et donc, effectivement, il fait très chaud parce qu'on est, et c'est aberrant pour un mois de mai, tous les gens de la météo le disent, on est en période de canicule. On est passé en 10 jours d'un temps anormalement froid à un temps maintenant très anormalement chaud. Donc voilà. Et après, il y a encore des gens qui se posent des questions sur la réalité du changement climatique. Cela, je ne sais pas quelles preuves dont ils ont besoin pour se rendre compte que le changement climatique, eh ben, on le vit de plus en plus. Mais enfin bon, après, mystère. Donc voilà. Alors moi, ça m'a rappelé, mais je vais passer la parole rapidement à Edith, mais ça m'a rappelé ce que j'ai entendu il y a 2 ou 3 jours sur une autre radio, un céréalier qui disait que cette histoire de canicule là, qui tombe maintenant, un céréalier dans l'ouest de la France, c'était très, 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 une très mauvaise nouvelle, parce que le blé, qui est un de nos principaux aliments, ça, on le sait tous, est en train de former ses épis en ce moment, et que si le temps est trop sec et trop chaud, eh ben, il va faire des épis très petits et des grains très petits et d'une qualité très médiocre. Voilà. Donc le changement climatique, c'est aussi ça, c'est des atteintes à venir à notre propre alimentation. Et ça aussi, il faut y penser. Voilà. Donc je crois qu'Edith, tu avais autre information par rapport au changement
climatique.
Rebondir
un petit peu par rapport à tout ce qui est écologie. Alors juste, je vais faire comme Didier, juste une parenthèse. Vous savez, il y a tout de suite le festival Anthropocène.
Tout à fait.
Et il y a beaucoup de réflexions sur justement l'alimentation.
On va en reparler d'ailleurs.
Voilà, l'alimentation et les évolutions entre au moment où les plantes ont été domestiquées, où elles étaient sauvages. Et donc bah, le blé qu'on cultive, il n'est pas habitué à toutes ces changements de temps complètement imprévisibles. Et c'est vrai que bon, faut aussi peut-être penser à adapter les semences, peut-être.
Oui. Alors. Oui, oui, et puis agir sur le réchauffement climatique parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant, c'est
alors,
sûr.
Eh bien, écoutez, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 20 mai dernier une résolution sur la responsabilité climatique des États avec une écrasante majorité. Alors, oui, on va dire comme certains, les Nations unies qui les écoutent encore. Mais c'est quand même aussi une majorité des États. Et cette résolution, elle émane des États pour qui le changement climatique, c'est absolument, c'est aujourd'hui. Par exemple, je vais vous dire Vanuatu, on va y arriver. Pourquoi je veux dire roi? Mais non, c'est Vanuatu, qui a alerté à maintes reprises sur le fait que son territoire pouvait disparaître en raison de l'élévation du niveau de la mer. Il a été à l'origine des efforts pour obtenir cette résolution. Cette nation insulaire du Pacifique avait déjà mené l'initiative diplomatique qui aboutit à l'avis consultatif de 2025. Alors, 2025, c'est la Cour internationale de justice qui a dit qu'il fallait que les États se bougent un peu par rapport au changement climatique. Donc là, on est sur un deuxième niveau. Donc les États qui sont mis avec le Vanuatu pour pouvoir avoir cette résolution, alors je vous les donne quand même parce que la Barbade, le Burkina Faso, la Colombie, les États fédérés de Micronésie, les îles Marshall, la Jamaïque, le Kenya, les Palaos, le Pays-Bas, les Philippines, Singapour, la Sierra Leone. Donc c'est pas aussi les changements climatiques, c'est quelque chose qui va être pour tout le monde à un niveau plus rapide pour certains, voire même dans le présent. Donc, que le fait qu'il y ait cette nouvelle résolution, c'est quand même important, et ça peut mettre en jeu aussi montrer un chemin que doivent emprunter les gouvernements pour défendre la justice climatique et pourrait contribuer à façonner le concept de responsabilité climatique mondiale dans les prochaines années. Surtout au moment où les choix politiques et autoritaires de certains dirigeants mondiaux, tels que la suppression de la protection environnementale ou le retrait de mesures visant à abandonner les combustibles fossiles, ont mis à mal les progrès internationaux, alors même que nous avons besoin de renforcer l'action climatique. Alors, je vous donne pas les noms des gouvernements qui ont pris ces mesures-là. Bon, on va penser aux États-Unis, mais il y a aussi en Europe. Il y a vraiment un gros recul sur plein de mesures. Et on se dit, dans ce cas-là, allez, le pétrole, pourquoi pas encore un coup. Bon, là, il est un peu coincé dans le détroit.
Tu parles du gouvernement américain, c'est ça ?
Gouvernement américain, mais aussi l'Europe. Il ne faut pas plus cacher derrière, les positions de Trump. Donc, voilà ce qui se passe. Là, c'est un point positif, même s'il va falloir que les États se l'approprient et que ça bouge un peu. Donc, on revient aux États-Unis. Merci, Didier, de m'en parler. Aux États-Unis, c'est l'essor du lithium qui menace le droit des peuples autochtones. Alors, le lithium, vous voyez bien un peu ce que ça peut être, cette espèce de métaux rare que tout le monde s'arrache, qui est en forte demande, en forte hausse, du fait de la transition énergétique et de l'expansion rapide des centres de données liés à l'intelligence artificielle. Le Nevada est devenu le pôle d'extraction crucial car il renferme environ 85% des réserves de lithium connues aux États-Unis. Alors, il y a un rapport d'Amnesty qui vient de sortir qui examine trois grands projets d'extraction de lithium dans le Nevada. Un qui est déjà en construction et deux autres qui sont encore en projet. Et le rapport note aussi la problématique de la non-écoute des peuples autochtones qui sont sur ces territoires-là. Alors, aux États-Unis, c'est pas compliqué, en fin de compte. Il y a des terrains qui sont, on les considère comme publics. Mais c'est une désignation qui est héritée d'une longue histoire de spoliation des terres par le colonialisme de population, donc l'arrivée des Américains sur les terres des autochtones. Et c'est sur ça que s'appuient ces entreprises d'extraction en disant « il n'y a pas besoin de demander l'autorisation, on nous dit que c'est des terrains publics ». Alors Amnesty demande déjà à ce que les lois américaines soient refaites et que ces terrains, on leur donne une affiliation des droits des peuples autochtones, puisqu'ils existent dessus, c'est des terrains qu'ils ont utilisés dans le passé et encore maintenant, et qu'on demande à ce moment qu'eux aussi aient une parole par rapport à ces extractions qui vont absolument tout chambouler. Alors là, c'est pareil. Vu ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand même compliqué parce que le gouvernement actuel de Donald Trump accélère l'attribution des permis miniers tout en affaiblissant les contrôles et valide à la hâte des projets d'extraction au détriment de la protection de l'environnement et des droits humains. Il favorise les priorités politiques et industrielles plutôt que ce dont la société a réellement besoin. Alors que l'essor de l'extraction de lithium se poursuit, il est temps que le droit des peuples autochtones devienne une priorité, a déclaré Alicia Campbell, c'est une chercheuse au sein de l'équipe responsabilité des entreprises en matière des droits humains à Amnesty. Donc on en est là, on est en train de dénoncer ce qui se passe. Les peuples autochtones voudraient qu'ils aient un droit à la parole. Le rapport d'Amnesty met tout à plat, y compris ces grandes multinationales d'extraction qui s'arrangent bien des lois américaines, alors que certaines, donc une en particulier qui vient du Canada, et le Canada, lui, il a des normes beaucoup plus strictes. Donc, on va dire, cette entreprise, si c'est strict chez toi dans ton pays au Canada, ça doit l'être, tu dois te amener ces demandes-là aussi aux États-Unis. Et pour l'instant, ce n'est pas ce qu'ils font. Donc, Amnesty demande à ce que les choses soient rediscutées, que la loi change et que aussi on puisse peut-être demander peut-être une responsabilité civile de ces entreprises-là par rapport à toutes les personnes qui ont des actions dans ces entreprises-là. C'est-à-dire on leur dire aussi, est-ce que vous avez envie d'avoir une entreprise qui vraiment spolie les gens et n'a aucun arrêt sur ce qui va se passer. Alors le lithium, États-Unis, voilà, on a l'image, mais on va répondre lithium en France.
Oui.
Ah, ou lithium en Espagne. Voilà, oui, c'est une grosse problématique. Oui.
Il y a des projets d'ailleurs d'extraction de lithium parce qu'on aurait découvert des gisements aussi en France. Donc voilà. Et puis faire un lien par rapport à notre actualité locale, on en reparlera à la fin. Ne quittez pas l'antenne avant 20h. C'est notre partenariat avec le Tangram de la pièce Comment Nicole a tout pété de samedi soir, qui va parler de scandale par rapport à l'installation d'une mine d'extraction de lithium, comme quoi. Donc voilà. Et c'est samedi soir au cadran. Voilà.
Et juste un tout petit point, parce que j'avais aussi surligné un autre petit chapitre. Là, on parle lithium, on parle États-Unis, on parle quelque chose qui est en train de se faire. Mais les personnes qui nous écoutent régulièrement, on peut parler aussi de la République démocratique du Congo.
Oui, oui.
Avec ces problèmes d'extraction des métaux rares et choses comme ça. Voir les Philippines. Voir les Philippines aussi. Donc c'est vraiment une problématique mondiale. Avec des gens qui essayent de nous faire croire qu'il faut absolument tout prendre de la terre et tout pour des moyens, on va dire, l'intelligence artificielle. Et peut-être que là aussi, on pourrait réfléchir et donner notre avis.
C'est lié à la notion de développement sans fin dans un monde fini. Ça ne marche pas, arrivé à un certain stade. Voilà. Donc, je crois qu'on allait changer complètement de sujet et de problématique, mais c'est lié à l'actualité locale. Amnesty a publié son rapport sur la peine de mort. C'est Clarisse qui va vous en parler.
Bah oui, histoire de vous refroidir un peu. Hein. Là, je vais vous parler de la peine de mort. Bon, alors, en fait, en 1981, une nouvelle victoire pour la dignité humaine avait lieu sur le long chemin de l'abolition universelle, puisque la France abolissait enfin la peine de mort. Aujourd'hui, 113 pays ont aboli la peine de mort pour tous les crimes. Mais le combat continue pour l'abolition universelle de la peine de mort. Depuis 1979, Amnesty International dresse le bilan annuel de la peine de mort dans le monde. Et donc, il y a le rapport sur la peine de mort en 2025 qui a été publié et que vous pouvez trouver sur le site d'Amnesty. 45 ans plus tôt, la peine de mort était encore une réalité en France. Et c'est donc en 1981 que le pays se détourne de cette peine d'un autre âge. Et chaque année, le 9 octobre, la Journée mondiale pour l'abolition de la peine de mort, c'est l'occasion de célébrer cet acte historique, ce jour où la France mettait fin aux homicides volontaires et prémédités, aux assassinats étatiques. Depuis cette date, quels que soient les gouvernements, la France a toujours affirmé son opposition en toutes circonstances à la peine capitale. Aujourd'hui, l'abolition de la peine de mort a fait son chemin petit à petit, victoire après victoire, pays après pays. Le 8 février 2024, Robert Badinter est mort, mais son combat reste bien vivant. Alors, un combat ininterrompu. Donc, en 1977, nous lancions notre combat en organisant une conférence qui s'est conclue par l'adoption de la Déclaration de Stockholm, texte fondateur pour l'abolition universelle de la peine de mort. À cette époque, seuls 16 pays avaient totalement aboli la peine de mort. Aujourd'hui, grâce à notre mobilisation, 145 pays, soit plus des deux tiers des pays du monde entier, ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Donc des progrès énormes et mesurables continuent d'être faits, même si un dernier tiers des pays reste à convaincre. En 1979, nous publions notre premier rapport statistique mondial sur la peine de mort. À partir de ce moment, nous devenons une référence mondiale en matière d'observation et de rédaction des rapports sur les condamnations à mort prononcées et les exécutions menées par les gouvernements dans le monde. Nous avons milité sans relâche sur des cas emblématiques qui ont clairement mis en évidence la nature injuste de la peine de mort. À l'instar de Troy Davis, un jeune afro-américain condamné à mort dans l'État de Géorgie et exécuté en 2011. Son histoire a remis en avant la nécessité de lutter contre l'application arbitraire de la peine capitale aux États-Unis. Plus récemment, notre organisation a agi en faveur de Rocky Myers, la première personne noire à avoir été graciée aux États-Unis en 2025. Nous avons également soutenu le mouvement abolitionniste au niveau international. Nous avons été l'un des membres fondateurs de la Coalition mondiale contre la peine de mort en 2002 et aidé à la création d'un réseau asiatique de lutte contre la peine de mort en 2006. En 2007, nous remettons aux Nations Unies plus de 5 millions de signatures en faveur d'une suspension mondiale de toutes les exécutions. Un mois plus tard, l'ONU adoptera sa première résolution sur la suspension des exécutions. Donc cette dynamique positive vers l'abolition se poursuit aujourd'hui. En 2025, c'est le Vietnam qui a aboli la peine de mort pour 8 crimes et la Gambie a aboli la peine de mort sur les crimes de meurtre, de trahison et d'autres infractions contre l'État. Au Liban et au Nigeria, des projets de loi visant à l'abolition sont en cours d'examen devant les assemblées législatives. Mais alors que le monde se dirige progressivement vers l'abolition totale, nous ne devons pas baisser la garde. En 2025, plus de 2700 exécutions ont été recensées dans le monde, un bond de 78% en un an. Une petite poignée d'États, dont la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite ou encore les États-Unis, continuent à avoir recours au châtiment le plus cruel et inhumain qui existe. Et je vous invite à vous rappeler aussi qu'il n'y a pas longtemps, l'État d'Israël a pris aussi une mesure rétablissant la peine de mort par rapport aux condamnés palestiniens.
Tout à fait. Voilà.
Et uniquement palestiniens, ce qui en plus est un crime d'apartheid en même temps, puisqu'il y a une inégalité entre les citoyens. Et donc parce que c'était le 31 mars 2026 que Israël a remis la peine de mort ciblant les Palestiniens condamnés. Parce que la peine de mort est irréversible, l'abolition universelle doit l'être aussi. Nous combattons sans relâche jusqu'à la disparition totale de ce châtiment inhumain. Donc je vous invite à lire le rapport qui est sur le site, qui est en PDF et qui est un petit peu trop long pour que je puisse vous lire tout aujourd'hui parce que je vais me faire tirer les deux oreilles.
Mais non.
Voilà. On a dit qu'il y avait eu un bond de 78% d'exécution en 2025. C'est beaucoup lié à la situation en Iran, qui à lui seul, je crois que c'était 1300 exécutions à lui tout seul.
Tout à fait.
Et ça continue en Iran,
Oui, on aura l'occasion d'en reparler de l'Iran, je pense, dans nos toutes prochaines émissions, c'est clair. Ok, ben on va passer la première pause musicale. Et puis, on se retrouve juste après. Je vais vous dire effectivement qui interprète cette pause musicale juste après.
Parce c'est une devinette.
Il y a un lien avec notre actualité locale, là aussi.
Il est le visage d'une rare victoire contre la machine administrative.
Excusez-moi, ce n'était pas ça que je voulais enclencher. Je recommence.
Nous, on n'entend rien, on ne sait pas.
With all the weird to tell it's strange.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Chaman, et c'est un morceau de d'Anne Passeo, une musicienne et jazzman et batteuse française, qui est en concert demain soir au Cube, ici à Évreux, dans le cadre du festival Anthropocène, organisé par le Tangram, et on est partenaire du concert, donc on aura une table de pétition. Et voilà, et on espère que vous viendrez nous voir, signer nos pétitions, vous renseigner sur Amnesty et assister bien évidemment au concert demain soir. Le concert est à 20h30 et l'ouverture des portes est à 20h pour être précise au Cube. Voilà. Donc demain soir, Anne Passeo au Cube pour un concert avec le Tangram.
Avec un nouveau CD.
Oui. Oui, mais c'est un morceau que je vais vous passer dans la deuxième pause
musicale.
On aura
musicale. En avant-première. Super.
Voilà, c'est un morceau tiré de son dernier CD. Celui-ci est un petit peu plus ancien. Voilà. Et bien, comme disait Clarlisse pendant la pause musicale,
je
vous ne l'avez pas
toi.
Entendu, comme tu as la parole après la pause musicale, tu la gardes. Donc voilà. Je voulais vous parler, je n'avais pas eu le temps la dernière fois, mais je voulais vous parler d'un long article, alors que je vais beaucoup résumer, qui est sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, n'hésitez pas à le consulter. Et ça s'appelle « La lutte contre l'antisémitisme, voir l'autre comme un être humain, non comme un ennemi héréditaire ». Et c'est un entretien avec une Nona Mayer qui est membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors voilà ce qu'elle dit. Qu'est-ce que l'antisémitisme ? L'antisémitisme est un phénomène complexe et multidimensionnel. Il existe à la fois des discours, des politiques publiques, des opinions et des comportements antisémites. L'antisémitisme, c'est ainsi l'hostilité envers des personnes juives, bien évidemment, perçue comme un groupe, ou l'hostilité envers toute personne qu'on pense appartenir à ce groupe. L'antisémitisme a une singularité d'abord par la longueur de son histoire. On retrace les racines de l'antisémitisme au massacre d'Alexandrie, alors c'était au 1er siècle après Jésus-Christ, massacre contre la population juive qui est considérée comme le premier pogrom donc, de notre ère. L'histoire terrible de la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale rend également ce racisme spécifique. Plus jamais ça est l'opinion unanime après 1945. Et c'est cette opinion qui a abouti à la signature de la Déclaration universelle des droits humains qui nous est si chère. L'antisémitisme comporte plusieurs strates de préjugés accumulés au cours de son histoire. Aucune strate ne disparaît jamais totalement. Elles peuvent ressurgir à la faveur du contexte. La première strate, c'est l'antijudaïsme chrétien qui désigne les personnes juives comme le peuple déicide, ceux qui ont tué Jésus. Petite parenthèse personnelle, on sait tout à fait maintenant que historiquement c'est complètement faux. Cet antisémitisme a perduré à travers l'Europe chrétienne jusqu'au Concile de Vatican dans les années 60. Et oui, l'antisémitisme chrétien jusque dans les années 60 n'avait pas été supprimé officiellement. Ensuite, on a l'antisémitisme à base économique qui va prendre son ampleur au 19e siècle avec le symbole du juif banquier qui détient l'argent. Ce préjugé s'est construit sur l'assimilation de personnes juives au prêt à intérêt et à l'usure au Moyen-Âge. Alors, je fais aussi une petite parenthèse personnelle, parce que moi j'ai lu aussi dans des trucs d'histoire que cette histoire de juifs, entre guillemets, banquiers et prêteurs d'argent et usuriers, c'était en fait parce qu'au Moyen-Âge, les métiers d'argent étaient considérés par les églises catholiques et chrétiennes comme dégradants. Donc, il l'avait laissé aux Juifs. Et après, on a dit que les Juifs étaient effectivement des gens qui étaient près des richesses matérielles. Alors qu'en fait, c'est tout à fait historiquement tout à fait différent. Troisième strate, on retrouve les théories de la race où les Juifs vont être théorisés comme des races génétiquement inférieures. Cela va culminer avec le nazisme, effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, le texte du protocole des sages de Sion est une illustration aussi de l'antisémitisme. Il s'agit d'un faux forgé par la police du tsar en Russie qui accusait les juifs et les francs-maçons de comploter pour diriger le monde. Alors avec la création de l'État d'Israël et tout ce qui se passe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on voit l'émergence d'un nouveau préjugé antisémite. L'amalgame entre les personnes juives et l'État d'Israël. Voilà. Ça, c'est important, effectivement. Et encore une fois, on ne le répétera jamais assez, On a le droit de critiquer l'État d'Israël par rapport aux crimes que l'on commet. Ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Ce ne sont pas les Juifs qui sont concernés, c'est le gouvernement de l'État d'Israël. Donc ce nouvel antisémitisme, associé à la critique de la politique expansionniste d'Israël, prend son essor dès la guerre des Six Jours, dans les années 60, à la fin des années 60, et de l'occupation des territoires par l'État d'Israël. Depuis, ça ne s'est pas arrêté, donc je vous saute le paragraphe qui suit, qui en fait détaille. C'est là aussi, reportez-vous à l'article complet pour en prendre connaissance plus amplement. Mais il est faux de dire que ce nouvel antisémitisme viendrait chasser l'ancien. C'est que les deux antisémitismes coexistent. Et quand on observe plus finement, dans le détail, on voit que ce nouvel antisémitisme, donc, est contre le fait que l'État juif se livre à des crimes, donc on est contre les Juifs, n'est pas l'élément structurant de l'antisémitisme contemporain. On observe au contraire, au niveau des opinions, une grande lassitude à l'égard du conflit israélo-palestinien, avec un taux massif de sans aucune réponse, aux questions qui concernent Israël, la Palestine et la responsabilité du conflit. L'antisémitisme contemporain est toujours majoritairement façonné par des préjugés liés au complot, au pouvoir, à l'argent, qu'on retrouve plutôt à l'extrême droite du champ politique. Où il est dit effectivement dans cet article que les préjugés antisémites, on les retrouve sur l'échelon politique, principalement et de très loin à l'extrême droite. Alors malgré ces différentes strates de l'antisémitisme et les crimes commis par l'État d'Israël provoquent effectivement par voie de conséquence une augmentation des actes antisémites, chose qui est tout à fait anormale et qu'on peut regretter, mais c'est la réalité. Cela peut notamment s'expliquer par des effets d'intimidation ou d'entraînement. C'est à un point tel que lorsqu'il y a profanation d'un cimetière juif, les responsables religieux essaient au maximum d'étouffer l'affaire pour empêcher que cela donne des idées aux autres. Alors, malgré la multiplication des actes antisémites, on observe au niveau des opinions dans les années 90 un recul graduel des préjugés antisémites dans la société française, contrairement à l'impression qu'on peut avoir. Cela est dû au renouvellement générationnel, à la hausse globale du niveau d'études et au fait qu'on vit dans une société de plus en plus diversifiée. Alors, on a en France pas mal d'atouts réglementaires et législatifs, différents outils, pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Il y a la loi Pleven, la loi Gassot, la création de la DILCRA, que je ne connaissais pas, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, qui date de 1972. Il y a le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la discrimination. Il y a eu les assises de l'antisémitisme, et ce que dit effectivement la personne qui parle dans cet article, malgré tous ces conflits, ces outils, personne ne sait plus vraiment ce qu'il faut penser. Alors ce qu'elle dit effectivement plus loin, et ça c'est tout à fait intéressant, il ne suffit pas de changer la définition de l'antisémitisme et de dire que les actes antisémites et les actes antisionistes, c'est la même chose, ou de toute critique d'Israël, ou que toute critique d'Israël est un acte antisémite. Critiquer Israël, la politique de Benjamin Netanyahou, les crimes contre l'humanité commis à Gaza, c'est fondamental et c'est vital dans une démocratie. Cela relève de la liberté d'expression. Cela devient de l'antisémitisme à partir du moment où l'on fait un amalgame, où on dit que toute personne juive égale sioniste, égale pro-israélienne, égale génocidaire. Lorsqu'on fait cet amalgame, on ne voit pas quelqu'un en face de nous, on voit un groupe essentialisé, et c'est ça le racisme. C'est pareil lorsqu'on dit que tous les musulmans sont des fanatiques djihadistes en puissance, ou que tout étranger est un agresseur sexuel en puissance. Ce sont ces amalgames qui sont le propre des racismes. Alors, ce qui est dit aussi plus loin, et puis ça sera la conclusion, l'État peut venir soutenir, sensibiliser, promulguer des lois, mais la répression, cela ne suffit pas. Ce sont ici surtout des associations qui ont un rôle à jouer pour sensibiliser et créer ces projets communs entre divers groupes. En Israël, vous avez des associations qui, même après le 7 octobre, réussissent à faire dialoguer ensemble Israéliens et Palestiniens comme le Forum israélo-palestinien des familles endeuillées, unissant des parents dont les enfants ont été tués par l'autre camp. Si eux arrivent à le faire, nous pouvons arriver à le faire en France. Cela passe par des pratiques culturelles. C'est apprendre ensemble l'arabe et l'hébreu. C'est développer des projets de musique, de danse, de cuisine mixte. C'est tout ce qui permet, au fond, de voir l'autre comme un être humain et non pas comme un ennemi héréditaire. La formation aussi est indispensable pour sensibiliser dans les commissariats et les gendarmeries à la prise en charge des actes antisémites, former à l'accueil des victimes, former les agents à prendre leurs plaintes au lieu de les pousser à faire une simple main courante. Au niveau de la justice, c'est la même chose. Très souvent, on ne retient pas la qualification antisémite ou raciste pour une agression, car c'est plus difficile à prouver. Alors, l'auteur de ce texte rappelle qu'elle fait des formations auprès de magistrats pour faire comprendre la nature de l'antisémitisme et du racisme et sensibiliser à la nécessité de prendre en compte la qualification d'acte raciste ou antisémite. Plus ces actes seront mis en évidence et traités en tant que tels par les forces de l'ordre et la justice, mieux on sera alors armé pour lutter contre l'antisémitisme et au-delà, contre les formes de racisme. Voilà, ça me paraissait intéressant de faire ce petit résumé de cet article, qu'encore une fois, je vous engage à lire dans toute sa longueur et tous ses détails sur le site d'Amnesty. Voilà. Et parce que, à force de parler effectivement d'antisémitisme, et par exemple d'assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme, comme il est dit dans cet article, c'est complètement, non seulement contre-productif, mais c'est en fait encourager indirectement l'antisémitisme.
Le racisme, de toute manière.
Voilà. Donc, voilà. Et comme on parle de racisme et d'antisémitisme, il y a Carlis qui voulait vous parler d'un sujet qui n'est pas sans rapport.
Pas tout à fait la même chose, mais enfin, il y a un rapport, mais ce n'est pas tout à fait la même chose.
Non, tout à fait. Mais c'est sur l'esclavage, je crois, c'est ça.
Alors, c'est l'esclavage et le colonialisme, voilà. Qui ne sont pas seulement des crimes appartenant au passé. L'esclavage moderne existe encore dans certaines parties du monde. Donc, les conséquences de l'empire colonial européen persistent dans notre société actuelle. Les richesses amassées par les États anciennement colonisateurs, par le biais de l'esclavage et du colonialisme, ont donné lieu à des profondes inégalités qui continuent à peser sur l'ordre mondial. Le racisme, présent dans nos sociétés actuelles, trouve également ses origines dans l'esclavage et la colonisation. La déshumanisation des personnes et la hiérarchisation en fonction de supposées races étaient en effet au cœur du projet colonial européen. Au cours des 4 siècles de la domination coloniale européenne, l'identité raciale supposée est devenue le critère de répartition du pouvoir entre les populations. Les populations sont catégorisées et hiérarchisées en fonction de leur couleur de peau. Donc ce système racial de séparation du pouvoir perdure encore dans la société d'aujourd'hui. Les personnes racisées et les populations autochtones sont confrontées à l'héritage persistant de ces pratiques discriminantes. Accès inégal à la santé, inégalité économique, contrôle aux faciès, incarcération excessive, etc. etc. Donc les conséquences aussi, c'est de la dette, par exemple, la dette d'indépendance d'Haïti. Il y a 200 ans, en 1825, la France imposait à Haïti une dette d'indépendance, une indemnisation imposée par la violence en échange de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. L'essentiel de l'activité économique haïtienne a été assujetti au remboursement de la dette d'indépendance, jusqu'à son remboursement total au bout de 122 ans. Aujourd'hui encore, le poids de la dette continue à paralyser le pays. Les inégalités structurelles et les crises des droits humains qui frappent le pays sont en partie le résultat des injustices raciales historiques que représentent l'esclavage et le colonialisme imposés par la France. C'est pourquoi nous soutenons les demandes de réparation de la société civile haïtienne auprès de l'État français. La France doit fournir les réparations pour remédier à son passé colonial. Au lendemain de l'abolition de l'esclavage en 1848, la France a versé des réparations. Mais celles-ci n'étaient pas destinées aux victimes de l'esclavage. Elles ont au contraire été versées, sous forme de compensation économique, aux anciens propriétaires d'esclaves avec la loi d'indemnisation de 1849. En 2001, la loi Taubira reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. La priorité est donnée au devoir mémoriel, pas à la question des réparations financières laissées de côté. La récente abstention de la France au vote de la résolution de l'ONU qui reconnaît la traite et l'esclavage comme le pire crime contre l'humanité et qui exige des réparations montre à nouveau le manque d'engagement de la France sur la question des réparations alors même qu'elle a une responsabilité historique. Bon nombre d'États qui ont bénéficié et qui tirent encore profit de l'héritage de l'esclavage et du colonialisme continue de nier l'existence d'un devoir de réparation en vertu du droit international pour ses torts historiques. Donc ces États, comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou la France, utilisent souvent l'argument que l'esclavage et le colonialisme n'étaient pas interdits par le droit international à l'époque où ces pratiques avaient cours et qu'il n'y a donc pas eu de violation du droit international qui puisse entraîner une obligation juridique d'accorder des réparations. C'est le principe de l'intertemporalité. Le plus grand obstacle aux réparations pour le colonialisme et l'esclavage tient à ce que les principaux bénéficiaires de ces deux phénomènes n'ont ni la volonté politique, ni le courage moral d'offrir ces réparations. Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance des Nations Unies en 2019. Donc des groupes s'organisent à travers le monde pour obtenir des réparations au titre de l'esclavage et du colonialisme. Si de nombreux États continuent à s'opposer aux demandes de réparations, des avancées ont toutefois été obtenues grâce aux luttes de longue haleine menées par les descendants des victimes. En Belgique, le pays a été reconnu responsable de crimes contre l'humanité par la Cour d'appel de Bruxelles en 2024 et a été condamné à verser des réparations pour l'enlèvement et la ségrégation raciale systématique d'enfants métis au Congo, colonisés par la Belgique. Au Canada, on en parlait tout à l'heure, le gouvernement canadien a accepté de verser plus de 2 millions de dollars en janvier 2023 pour réparer les dommages causés aux victimes de retraits forcés d'enfants autochtones et leur placement dans des pensionnats. Environ 150 000 enfants autochtones ont été séparés de leur famille, de leur identité et de leur culture. En Nouvelle-Zélande, le Congrès a adopté en 2022 une proposition de loi en faveur d'une indemnisation à hauteur de 177 millions de dollars néo-zélandais pour une tribu maori et de la restitution de 36 sites ayant une signification culturelle. Alors que fait Amnesty International pour obtenir des avancées sur le terrain des réparations ? Les réparations ne se limitent pas au rétablissement de la justice pour les torts historiques causés par l'esclavage, la traite des esclaves et le colonialisme. Elles impliquent également le démantèlement ou la transformation des structures et systèmes contemporains de discrimination, de soumission et d'inégalité raciale mises en place à l'époque de l'esclavage et du colonialisme. Les réparations concernent donc notre avenir et notre présent tout autant que notre passé. Au cours de l'année écoulée, l'équipe justice raciale d'Amnesty International a développé des arguments juridiques s'appuyant sur le droit international en faveur des réparations. Mener un travail de plaidoyer aux côtés des Nations Unies, produisant une déclaration orale, des analyses et des contributions dans le cadre de résolutions de l'ONU, des réunions de plaidoyer et co-organisant des événements en marge avec des partenaires. Amnesty a également travaillé avec des partenaires pour donner de l'écho aux demandes en faveur de réparations par le biais de la Décolonial Berlin Conference, ainsi que dans les cas de la Namibie et de Haïti. Et Amnesty a continué à recueillir des informations sur les effets du colonialisme et de l'esclavage sur les droits humains aujourd'hui. Donc, soutenez notre travail d'enquête et d'interpellation. Voilà, suivez ce qui se passe sur le site d'Amnesty, faites des dons pour que les chercheurs puissent continuer à mener leur travail d'enquête, et voilà.
Et venez signer nos pétitions sur le stand de demain et samedi soir, ce qu'on va tenir avec le Tangram, voilà, c'est aussi une façon d'agir avec nous. On passe tout de suite la deuxième pause musicale, on se retrouve juste après.
Tant qu'il y a de l'eau, je veux rester ici, même si les bateaux sont déjà partis. Tu sais, s'il y a de l'eau, c'est le plus beau pays, même si
retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc je vais tout vous dévoiler. Il y a Edith qui, comme je disais, qui restait plus que 18 secondes de musique à l'instant. Il me disait, mais là, elle chante pas. Mais elle chante, chante qui? C'est Anne Passeo. On vous rappelle qu'elle
quand
sera
même
demain soir en concert au Cube, dans le cadre du Festival Anthropocène du Tangram, et qu'on est partenaire et qu'on aura donc un stand de signature et d'informations sur Amnesty dans l'entrée du Cube demain soir. Voilà.
Eh ben moi, je vais donner des bonnes nouvelles.
Voilà, parce qu'une émission sur Amnesty et les droits humains, sans bonnes nouvelles, c'est toujours un peu triste, et c'est Edith qui en a ce soir.
Voilà, donc, au mois de février, Didier me l'a rappelé, nous avions présenté le cas de cette rapporteuse pour les territoires occupés,
oui.
Francesca. Alors, il me manque son nom de famille. Attendez, je suis tout à fait...
Je l'avais noté, moi.
C'est Francesca Albanese, c'est voilà, ça. C'est ça.
C'est une dame d'origine était... italienne.
Voilà, tout à fait. Et qui avait dénoncé le génocide
oui.
commis par Israël à Gaza. Bon, c'était à peu près au moment où aussi Amnesty parlait de génocide et où il y a eu, on va dire, beaucoup de levées de paroles, à minimum. Hein, on ne va pas dire de boucliers, mais de levées des paroles. Et alors, elle a été, au niveau des États-Unis, ce qu'elle disait ne plaisait pas au gouvernement états-unien. Donc elle a eu plein de sanctions imposées par les États-Unis sur cette rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens. On en avait parlé. Comment dire, la France n'était pas forcément pour la défendre, l'Europe non plus, ça a mis un certain temps.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, je fais soft.
Oui,
hein.
Oui, j'ai bien compris.
Je fais soft, mais c'était presque haro sur la personne. Mais que dit-elle? Elle est lamentable, il faut qu'elle démissionne. Ça s'est calmé depuis. Et alors là, ce que j'ai vu, moi, c'est une bonne nouvelle qui se passe aux États-Unis. Il y a un juge qui a estimé que les sanctions imposées par l'administration Trump en 2025 visant directement ses prises, donc les prises de position de Francesca Albanese, ses prises de position publiques, notamment ses critiques de la guerre menée par Israël à Gaza et de la politique américaine dans la région, ces prises, c'est de la liberté d'opinion. Et donc, ça ne méritait pas d'avoir ces sanctions. Le tribunal a donc affirmé que la censure ou la punition d'un discours critique, surtout lorsqu'il émane d'une experte mandatée par l'ONU, porte atteinte à l'intérêt général, qui est de préserver un débat ouvert et libre. En bloquant les sanctions, le juge indirectement valider l'importance du rôle de Francesca Albanese, les droits humains ne peuvent être défendus si ceux qui les protègent sont muselés. Ça fait plaisir de lire ça.
Oui, tout à fait. Surtout en ce moment où on entend très très souvent des discours qui sont à l'extrême opposé.
Donc voilà, on espère que ça va vraiment... Déjà, elle est restée dans son poste et ça c'est pas... Oui. Et elle continue ses enquêtes. Hein. Moi, j'ai vu d'autres enquêtes. Mais ce juge... États-Unis, hein. Voilà, il a décidé de revenir sur les sanctions du gouvernement Trump. Et ça, ça fait aussi plaisir. Une autre bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle, tout à fait.
Alors, Chine, pareil, bonne nouvelle chinoise. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Eh bien, le 13 avril dernier, l'avocat Yu Wenchen a été libéré après avoir purgé une peine de 3 ans de prison pour incitation à la subversion du pouvoir de l'État. Je ne sais pas trop comment on peut inciter à la subversion du pouvoir de l'État. Il faudrait un mode d'emploi.
Ça, c'est dans tous les pays autoritaires, c'est une forme d'accusation qui est extrêmement répandue, ce genre
tout
de choses.
Tout à fait, mais difficile à démontrer, je pense. Donc, arrêté en 2023 avec son épouse Xu Yan, alors qu'il se rendait à une rencontre avec des représentants de l'Union européenne. Je me rappelle, on en avait parlé à la radio aussi. Donc 2023, ça fait déjà plus longtemps.
Oui.
Donc il a fait partie des figures les plus connues de la défense des droits humains en Chine. Sa libération représente un soulagement important pour ses proches après des années de détention et de pression. Alors il était poursuivi pour son engagement en faveur de la justice et de l'état de droit. Yu Wenchen n'aurait jamais dû être emprisonné. Son cas s'inscrit dans un contexte plus large de répression des défenseurs et défenseuses des droits humains en Chine, où les autorités utilisent régulièrement des accusations liées à la sécurité nationale pour réduire au silence les voix critiques. Attention, cette libération ne constitue pas en soi une réparation, dit Amnesty. En effet, de nombreuses personnes libérées restent soumises à des restrictions, comme la privation des droits politiques, souvent utilisée pour prolonger la surveillance et le harcèlement. Alors, Yu Wenchen doit pouvoir retrouver sa famille et reprendre sa vie librement, sans intimidation. C'est une étape importante qu'il faut saluer, mais elle rappelle aussi l'urgence de mettre fin aux poursuites arbitraires et de garantir le respect des droits humains en Chine. Et là, c'est encore un gros combat.
Oui, faire respecter les droits humains en Chine, il y a effectivement encore beaucoup de boulot avant qu'on y arrive. Mais bon, voilà. Comme avait dit Mandela, ça me vient à l'esprit. On croyait que c'est une citation de mémoire. On croyait que c'était impossible à faire jusqu'à ce qu'on l'ait fait. C'est quelque chose qu'il a dit. Voilà. On va passer à nos actualités locales. On en a plusieurs à vous donner. Et on va commencer par un appel à manifester. C'est Claire-Lise qui va vous en parler.
Alors, c'est assez original. On a reçu... On a reçu sur nos adresses mail, en fait, un appel à manifester, c'est une marche pour l'enfance et la jeunesse. Donc, c'est à l'appel du COFRAD, qui est un organisme français. Donc, appel à manifester. Dans une société qui nous laisse peu de place et qui applique les solutions du passé, nous, enfants et jeunes, proposons d'unir nos imaginaires pour construire un monde meilleur. Construisons un accès universel aux biens de première nécessité, mais également aux loisirs, au sport et à la culture. Construisons des espaces publics adaptés à toutes nos différences et accessibles à toutes les personnes. Construisons une vie du dehors en végétalisant les espaces communs, en dépolluant notre environnement et en facilitant les déplacements. Construisons une nouvelle ère de l'éducation grâce à l'entraide et à la coopération dans l'accès au savoir. Construisons un monde où chaque enfant est aimé, protégé des violences et se sent bien. Construisons un système de santé qui protège tout le monde grâce à l'accès inconditionnel aux soins. Construisons une culture de l'accueil et de l'inclusion en nous ouvrant à la diversité des personnes du monde. Construisons une société du partage et de l'entraide où chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Construisons une société originale qui ose surprendre en libérant notre créativité. Pour construire ce monde, nous, enfants et jeunes, participerons à la marche pour l'enfance et la jeunesse le mercredi 27 et le samedi 30 mai. Nous appelons toutes les organisations, toutes les générations à nous rejoindre partout en France pour en poser les premières pierres. Donc la manifestation de la marche pour l'enfance et la jeunesse à Évreux aura lieu demain, mercredi 27 mai. Le rendez-vous est fixé à 17h30, place Armand Mandel. Voilà, donc à Évreux. Et moi, personnellement, je m'étais engagée sur autre chose. Je ne vais pas pouvoir y aller, mais je pense que c'est
tout à fait original.
C'est un type de manifestation qu'on ne voit pas d'habitude, et j'espère qu'il y aura effectivement beaucoup de jeunes qui y viendront, qui auront répondu à cet appel.
Puis c'est
et des associations aussi pour les soutenir.
Mais ce n'est pas qu'un discours contestataire, loin de là, c'est aussi un discours positif qui donne envie de faire des choses. Ça tombe bien aussi dans le cadre du festival Anthropocène, qui effectivement parle un peu des mêmes sujets sous d'autres formes. Donc on a aussi on vous parlait depuis le début de l'émission du concert de demain. Donc demain on va manifester, puis après on va au concert de Anne Passeo à 20h30 au Cube. Voilà. Et donc on a un autre partenariat avec le Tangram cette semaine. Mais avant on voulait quand même aussi tirer un petit coup de chapeau à nos amis du Tangram pour le spectacle dont on était aussi partenaire, Monarque, qui a eu lieu la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Jeudi dernier, qui était un excellent spectacle. Mais je crois que Clarisse voulait là aussi vous dire un petit mot.
C'était vraiment très beau parce que ça part déjà de l'histoire de jeunes qui s'occupent de soigner les ailes des papillons, des papillons monarques, et puis du questionnement sur ces papillons qui partaient du Canada et où, pendant des années, on ne savait pas où ils allaient. On ne savait pas où allaient atterrir ces bestioles.
Ils
migraient tous les ans. Et donc, ils ont eu l'idée, dans les années 1985-86, alors, il n'y avait pas encore des puces électroniques, mais de coller des petits numéros, des petites étiquettes sur les ailes des papillons, et puis sur les papillons qui avaient des ailes abîmées, de faire des collages pour les aider à pouvoir migrer. Et il y avait un numéro de téléphone pour joindre s'ils étaient découverts, et on a découvert que donc ces papillons allaient dans une forêt dans un coin reculé du Mexique, et il y a des autochtones, des indigènes, des gens qui vivaient là-bas, qui ont repéré effectivement ces petits messages sur les ailes des papillons et qui ont contacté les équipes du Canada. Et le film parle effectivement de la migration des papillons du Canada vers le Mexique, mais fait un parallèle avec les migrants qui partent d'Afrique du, d'Amérique du Sud centrale et, du, et qui traverse le Mexique. Et ils ont pris l'emblème de ce papillon monarque qui est dessiné sur, sur des drapeaux, qui est dessiné sur leur t-shirt, qui est dessiné sur les, le train qui les mène jusqu'au mur de Trump. Et donc ce, ce spectacle, il est vraiment poétique, il est, très, il est vraiment très beau. Bon, il y a quelques petites finitions à, par rapport la, à la mise en scène. Le décor est splendide. Mais...
Le train, c'est la bête. Oui, c'est la beste.
C'est la bête infernale.
C'est et donc, voilà, donc, c'est bravo, vraiment très impressionnant.
Bravo au Tangram d'avoir programmé ce spectacle dans le cadre d'Anthropocène. Et donc, on, nous, on est partenaires, donc c'est samedi 30 prochain, à 20h30 au Cadran. On est partenaire d'un autre spectacle qui s'appelle « Comment Nicole a tout pété ». Alors, je vais vous lire rapidement, c'est très court, la description qu'en donne le Tangram sur leur page. Le spectacle alterne entre débats fictifs autour d'un projet de mine française de lithium, on parlait du lithium en début d'émission, et l'évolution du climat mondial. Le sujet est grave, mais l'approche est fantasque, car le dramaturge, tout comme son équipe de comédiens, ont ce talent appréciable de parler de choses très sérieuses avec une drôlerie décapante. Frédéric Ferrer, c'est le metteur en scène, est aussi un géographe de la scène dont les curiosités, tout comme l'humour, paraissent sans limites ni frontières. Le résultat est une investigation « borderline », entre guillemets, comme il les aime et nous aussi. Il sera donc question de Jurassique, de la guerre de l'eau, de l'ONU, du CO2 et de tout ce qui a connu une évolution néfaste pour notre planète. Et bien sûr, de Nicole, qui fera tout péter. Voilà, donc ça c'est le spectacle de samedi prochain, le 30, à 20h, je vous ai dit 20h30 au Cadran. Là aussi, on sera présent avec une table et des pétitions, venez nous voir. Et puis, dans notre actualité du moment, on vous rappelle qu'on est... Alors, on est partenaire, on sera présent du moins, non, on n'est pas partenaire, mais on sera présent à l'invitation de l'association LGBT de l'heure, de la Pride, je vais arriver à le dire, de la Pride, c'est le samedi 13 juin prochain à Vernon. Donc si vous voulez nous rencontrer, nous voir, on aura là aussi un stand et une table de presse. Et on sera présent également pour organiser, là, c'est nous qui sommes maîtres d'œuvre, notre foire aux livres le dimanche 28 juin prochain. Vous pouvez déjà noter la date, 28 juin prochain, notre foire aux livres à l'espace Saint-Léger, comme tous les ans, au beau jour, donc le samedi 28 juin, on ne le répétera jamais assez. Et puis, on sera, pour notre prochaine émission de radio, ce sera le mardi 16 juin, à 19h, en direct sur l'antenne de Principe Actif. Et on vous rappelle qu'on a plein de podcasts pour écouter nos émissions sur le site de la radio, principeactif.net. Voilà, on va vous laisser pour ce soir. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas, notre mail c'est evreux@amnestyfrance.fr, evreux@amnestyfrance.fr. Voilà. On va souhaiter bonne soirée.
Bonsoir.
À tout le monde. On laisse la place au laboratoire.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.